Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « L'importance de la rédemption ». Nous en sommes à l'étude numéro 5 et le titre pour aujourd'hui sera « Babel, le jugement sur l'humanité ». Le jugement de Babel pèse lourdement sur l'humanité, marquant toute l'histoire culturelle et spirituelle. En vain le monde tente de le surmonter par ses propres forces. Premièrement, nous avons la dispersion de l'humanité dans l'histoire des temps primitifs. Selon l'Écriture sainte, trois motifs ont présidé à l'érection de la tour de Babel. L'orgueil, l'ambition et la détermination de demeurer ensemble. Le jugement divin est triple, lui aussi. L'orgueil qui s'élève, a été jugé par la descente du Seigneur. Le Seigneur a dû descendre, il a dû vraiment agir. Notez la Genèse, chapitre 11, versets 4 et 5. La détermination de rester ensemble par la dispersion et la division, sans compter l'ambition par l'opprobre. Donc la ville par laquelle ils ont voulu se faire un nom, selon le verset 4, cette ville est devenue précisément par son nom un symbole de ruine. Babel, c'est la cité de confusion. Elle est bien la preuve de l'importance du pécheur et de l'inutilité de toute rébellion contre Dieu. Deuxièmement, nous avons la confusion du langage, cette confusion qui conduit à une confusion de pensée. Oui, la confusion du langage à Babel est bien plus qu'une simple confusion de vocabulaire, de grammaire, de prononciation ou de phraséologie. Quel était le langage originel? Eh bien, que ce soit l'hébreu ou le syriaque, comme certains rabbins le supposent, certains pères de l'Église, ou plutôt ce qui semble être plus vraisemblable, que c'était aucune des anciennes langues connues de nous. C'est fort possible. Et il est certain qu'une communauté de langage incluait une profonde uniformité de vie mentale. Imaginez le monde entier qui parle la même langue et qui pense la même chose. Le langage est la manifestation phonétique du mental. La partie mentale de toute l'humanité a donc dû, dans un sens spécial, avoir été totalement uniforme. La confusion du langage, donc cette confusion à Babel, a été principalement une confusion des conceptions mentales fondamentales de l'humanité. À la place de l'unité originelle, par un acte de puissance de Dieu agissant sur l'esprit humain, s'établit un clivage multiple dans la pensée des sentiments et les projets ou idées des hommes, ainsi que leurs conceptions. Le langage originel dans lequel Adam, au paradis, a nommé tous les animaux, selon la Genèse chapitre 2, verset 20, était pour ainsi dire comme un vaste miroir où la nature se reflétait fidèlement. Dieu a depuis lors brisé le miroir. Chaque peuple n'en a retenu que tel fragment plus ou moins large. Chaque peuple ne voit ainsi qu'un morceau du tout, mais jamais la totalité. C'est ce qui explique les divergences qui opposent les conceptions des nations en ce qui concerne la religion, la philosophie, l'art, les sciences et l'histoire. Opposition d'où naissent souvent des mutuelles contradictions. Tout cela entraîna nécessairement des conséquences ultérieures. La connaissance du monde étant perturbée, la connaissance de Dieu l'a été également. Troisièmement, nous avons la dégénérescence de la foi et de la religion. Au commencement de l'histoire humaine, à ce commencement se trouve présente la foi dans Yahvé l'Éternel, dans le Dieu. Oui, il y avait un reconnu dans la nature. Romains chapitre 1, versets 19 et 20. Il y avait la conscience. Romains chapitre 2, versets 12 à 15. Et il y avait l'histoire. Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Donc, le paganisme est une perversion de cette foi antérieure. Toute religion païenne a pour éléments fondamentaux une déformation de la révélation originelle, une mauvaise interprétation de la révélation naturelle. Notez Romains chapitre 1, verset 23, et un obscur conflit de l'âme avec la révélation de la conscience. À travers la révélation universelle persiste néanmoins l'influence divine sur l'humanité. Dieu retient celle-ci tel un puissant aimant. Il n'est pas loin de chacun de nous. Acte 17, verset 27. Voulant réveiller en eux le désir de le chercher, eh bien Dieu cherche les hommes comme une mère qui cherche le cœur de son enfant afin qu'il la cherche en retour, car il est dit « afin qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver ». Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 27. L'effort religieux ou la recherche de Dieu, remarquablement développé, même parmi les peuples les plus païens, ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. La tragédie, c'est que Satan, le grand séducteur, a aiguillé cette recherche humaine dans une fausse direction, de telle sorte que l'homme a fui, il s'est éloigné de Dieu, tout en le cherchant. C'est ce qui advient, car l'homme poursuit la bénédiction, mais l'homme évite la présence de son Créateur. Il ne veut rien avoir à faire, l'homme, avec le Créateur. Et pourtant, il ne peut se résoudre à se couper totalement de lui. L'apôtre Paul attribue cette désharmonie et cette dégénérescence religieuse au manque de reconnaissance et à l'ingratitude. Bien qu'il sache qu'il y a un Dieu, les hommes ne l'ont pas glorifié comme tel et ne lui ont pas rendu grâce. Ils sont devenus vains dans leur pensée, ainsi que dans leur cœur. Ils sont devenus insensés et obscurcis. Notez Romains chapitre 1, verset 21. Certains éléments furent employés par l'action démoniaque pour conduire à cette transposition des valeurs dans la vie religieuse. Et comme l'homme ne connaissait pas d'autres âmes que la sienne, il lui parut logique d'en attribuer les caractéristiques à ses esprits de la nature. D'autre part, comme ces esprits nature correspondent à la puissance fracassante de leurs éléments, on ne pouvait les imaginer que comme des êtres d'une forme de vie plus intensive et plus haute. On leur attribua donc les caractéristiques humaines, mais à un tel degré beaucoup, beaucoup plus élevé. Il fallait donc en résulter une relation inévitable entre, on peut bien le dire, entre les démons et les héros, relation par laquelle le démoniaque acquérait une personnalité à travers l'humain, tandis que l'héroïque, à travers le démoniaque, s'élevait au supra-humain, ce qui semble bien être l'essence de la conception païenne de Dieu. Ainsi le païen se créa un Dieu à son image. Notez la Genèse chapitre 1 verset 27. Et ici intervient le pouvoir du langage humain à former et à développer des conceptions religieuses. C'est une particularité de l'esprit humain que d'établir côte à côte, involontairement et surtout inconsciemment, le matériel et le spirituel, et de les immerger tous les deux, l'un dans l'autre. Alors le langage humain, les choses extérieures à l'homme, il parle l'homme, par exemple, d'un riant soleil, d'une heureuse chaleur, et inversement, introduit les choses externes dans l'humain, et il parle alors d'amabilité froide ou de joie rayonnante. Avec plus de fantaisie encore, il parle des flèches du soleil, ses rayons. Il parle des coups de la lune, selon le psaume 121, verset 6. Il parle des fenêtres des cieux, notez Malachie, chapitre 3, verset 10. Ou des paupières de l'aurore, selon Job, chapitre 3, verset 9. Tant que l'homme s'en tient au côté pictural de ces figures de style, il en retira un enrichissement de l'esprit. Par contre, lorsque assombri par le péché, notez Éphésiens chapitre 4 verset 18, ainsi que Romains chapitre 1 verset 21 et 22, eh bien, là, il est conduit dans l'égarement par les puissances démoniaques. Et il s'est mis à croire à la réalité de ces images. Donc, on peut dire ces images qui sont le manteau fantaisiste des réalités. Et là, apparurent de nouvelles conceptions déifiantes du monde. Le langage devient donc ainsi un des principaux facteurs d'édification des religions païennes. D'autres forces maîtresses ont occupé à la formation ultérieure de la conception de la déité et spécialement à la formation de la mythologie, c'est-à-dire l'histoire des dieux. De leur nombre sont la peur ou le désir, sont la nécessité de la rétribution, la méditation sur les origines du monde, et même la persistance des idées essentielles du folklore et des légendes des héros. Le genre grammatical y joua aussi un rôle significatif. Dans beaucoup de cas, il déterminait, par exemple, si la divinité correspondante était, par exemple, si cette divinité était masculine ou féminine. Et ceci a permis de penser qu'il n'y a pas eu de paganisme purement national avant la diversification des langues, et qu'il ne pouvait pas y en avoir. Alors même que des idées individuelles ont pu exister à l'époque antédiluvienne, et cela à propos de fausses divinités de la nature sur le plan naturel, le paganisme n'a eu de commencement que avec la dissémination de la race humaine adamique en des nations séparées. Notez Deutéronome, chapitre 4, verset 19, et Romains, chapitre 1, verset 18 à 32. Donc c'est important, Romains 1, verset 18 jusqu'au verset 32. Derrière tout cela, il faut cependant admettre l'opération démoniaque. Les divinités païennes ne sont pas uniquement le fruit de l'imagination. Selon le témoignage apostolique du Nouveau Testament, Apollon, Diane, Aphrodite et Ishtar, ou quelques autres noms qu'on leur a donnés, ne sont pas seulement l'intellectuelle personnification des puissances de la nature, non, mais ce sont des puissances spirituelles démoniaques réellement existantes. Et ces puissances, dans la ligne de l'inspiration occulte, se sont donc révélées elles-mêmes aux divers peuples, tantôt sous un vêtement mythologique de type national, tantôt sous forme d'images poétiques attrayantes, et tantôt encore sous une forme monstrueuse. Comment, sans cela, le grand apôtre des gentils, ce qui veut dire des non-juifs, aurait-il pu, par un recours exprès au nom du Seigneur Jésus, chasser à Philippe l'esprit de Python de cette malheureuse femme dont parle Acte chapitre 16, verset 16. Python était un des titres employés pour désigner ceux qui délivraient les oracles au temple d'Apollon. À Delphes, le plus important temple et oracle d'Apollon gouvernait en qualité de chef prêtresse la Phytia ou médium, le médium d'Endor. Et vous avez 1 Samuel, chapitre 28, versets 7 et 8, ainsi que Lévitique, chapitre 20, verset 27, qui vous confirmera cela. Ou comment aurait-il pu affirmer ce saint apôtre ce que offrent les païens? Il l'offre à des esprits mauvais. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Et on le voit, il y a un certain élément de vérité dans le polythéisme national. On peut penser, sous cet angle-là, au prince angélique de Perse et de Grèce qui sont cités dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 13 et 20. Le paganisme, dans son ensemble, ne repose pas seulement sur l'erreur et la tromperie, mais encore et en même temps sur une base spirite. Et c'est ainsi que les païens, sous l'influence des démons, sont devenus les créatures, ou plutôt les créateurs, de leur Dieu. Nous allons voir cela de plus près, car à la vérité des caractères nationaux correspond une variété égale de maximes religieuses et d'idéaux moraux. Le grec dit par exemple « Homme, connais-toi toi-même ». Le romain dit « Homme, gouverne-toi toi-même ». Le chinois dit « Homme, éprouve-toi toi-même ». Le bouddhiste dit « Homme, annihile-toi toi-même ». Le brahman dit « Homme, plonge-toi dans la somme universelle de tout ». Le musulman dit « Homme, soumets-toi toi-même ». Mais le Christ dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, tandis que en lui, Jésus-Christ, le chrétien peut dire « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Oui, tout cela est donc important. Et ensuite, quatrièmement, nous avons la tension internationale. En effet, la mesure dans laquelle les peuples peuvent être bénis, cela dépend grandement de la manière dont elles observent les ordonnances divines de la création et de l'histoire. Jérémie, chapitre 18, versets 7 à 9. Et dans ce sens, il y a aussi des conversions de nations entières à Dieu, et cela par une repentance nationale. Jérémie chapitre 18, versets 7 et 8. Ce dont témoigne du reste, par exemple, le cas de Ninive au temps de Jonas. Une nation est donc un organisme. Osée, chapitre 11, verset 1. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit appelée un jour à rendre compte à Dieu comme telle, en tant qu'unité. À travers les générations, elle vit une vie uniforme. Et c'est pourquoi les descendants sont participants des bénédictions ou des jugements qu'ont entraîné les œuvres de leurs ancêtres. Notez par exemple Ézéchiel, chapitre 35, versets 5 et 6. Ainsi seulement s'explique la tension dramatique du monde entier, l'apparition de la chute des civilisations au sein des tourbillons des royaumes et des races. Cinquièmement, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est le but de l'histoire du salut. Alléluia. La confusion de langage ne signifie pourtant pas que Dieu soit adversaire de toute union de la race humaine. Bien au contraire, la communion la plus étroite et la plus spirituelle, c'est son vrai but pour l'humanité. Michée, chapitre 4, versets 1 à 4. Mais, il est lui-même le centre de l'unité qu'il souhaite. Elle est en Christ son Fils. Éphésiens 1, verset 10. Notez Saint Jean, chapitre 10, verset 16. Et toujours Saint Jean, chapitre 17, versets 21 et 22. Donc, elle est en Christ son Fils, désigné comme roi, psaume, chapitre 2, verset 6, et Zacharie, chapitre 14, verset 9. De son côté, l'homme a cherché à détrôner le Créateur, ce qu'il fait aujourd'hui plus que jamais, afin de prendre lui-même le gouvernement en main. Il a dressé toute son énergie charnelle comme un bastion opposé à la poursuite de l'œuvre de la rédemption. Il ne pouvait que s'écrouler. Et c'est pourquoi, voyez-vous, le bras de Dieu a dû se montrer pour disperser et ainsi par la destruction de l'unité démoniaque et charnelle, l'unité vraie, divine et spirituelle pouvait donc ou allait pouvoir s'effectuer enfin. Un plein universalisme, c'est le but final de l'abrogation de l'universalisme premier. Et en cela, on peut dire qu'en cela, le jugement de Babel était lui-même en quelque sorte une grâce. Et sixièmement, nous avons le triomphe final de Dieu. En effet, l'humanité lutte avec persévérance contre, toujours contre le plan de Dieu. L'esprit de la Babel, cet esprit révolté et vaincu, demeure toujours actif tout au long des siècles. Et à la fin des temps, il semblera même que cette révolte, elle va en quelque sorte atteindre son but, surtout lorsque l'Antéchrist parachèvera la fameuse œuvre de Nimrod. Et là, vous pouvez consulter Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 13, versets 7 à 8. Vous savez, tout cela est donc prouvé bibliquement. Ce n'est pas une mythologie fantaisiste. L'histoire de la ville de Babylone, elle trouve son modèle dans la ville de Caïn, notez Genèse chapitre 4 verset 17. Elle trouve également son symbole dans la fameuse tour de Babel, Genèse chapitre 11. Elle trouve son principal développement à travers Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2 verset 37 à 38. Elle trouve aussi tout cela dans sa progression. Où cela? Eh bien, dans l'histoire mondiale, selon Daniel chapitre 2 verset 7. Elle trouve son accomplissement sous le fameux règne de l'Antéchrist. Et consultez le dernier livre de la Sainte Bible, chapitre 13, verset 17. Elle trouve aussi sa fin pour le triomphe du Christ. Apocalypse, chapitre 18 et le chapitre 19. Après l'Antéchrist, Jésus-Christ, en effet, apparaîtra. Il va apparaître et gagnera la victoire totale. Apocalypse 19, verset 11, jusqu'au verset 21. Et l'épouse, selon Apocalypse 21, verset 9, et vous savez, la cité de Dieu qui va descendre des cieux, ce sera la Nouvelle Jérusalem, verset 10. Et la Nouvelle Jérusalem triomphera de la prostituée, et ce sera le dernier assaut de Babylone contre les cieux. Apocalypse 14, verset 8, ainsi que le chapitre 17, verset 1, jusqu'au verset 18. Oui, chers amis, le jugement à Babel mettait fin à un certain sens, à la forme originelle de la révélation. Un âge complètement nouveau, totalement nouveau, allait commencer avec Abraham, qui était l'ancêtre d'Israël et qui était aussi le père de tous les croyants. Romains chapitre 4, versets 11 et 12. La bénédiction que recevraient plus tard ceux d'entre les nations qui seraient sauvés était en réalité la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 9 et le verset 14. L'Église de l'âge présent, Romains 15, verset 27, et Éphésiens chapitre 3, verset 6, donc l'Église de l'âge présent, le royaume de Dieu à venir, Luc 1, chapitre 72, ou si vous voulez, 72 et 73. Et nous avons la Nouvelle Jérusalem, Révélation, Apocalypse, chapitre 21, verset 10, et Hébreux, chapitre 11, verset 16. Tout cela repose également sur la base des promesses faites à Abraham. Et c'est avec lui qu'a commencé la révélation actuelle du salut et de la rédemption. Tout ce qui précédait était introductoire et préparatoire. Abraham n'était pas le premier croyant. Il y avait Abel, Enoch, Noé et Melchizedek qui sont les contemporains. Tous furent des hommes merveilleux, des hommes de foi. Hébreux 11, versets 4 à 7 et la Genèse, chapitre 14, verset 18. Dans la foi d'Abraham, l'essentiel était la nature de sa foi plutôt que le seul fait de croire. En effet, la foi de ses prédécesseurs s'était en quelque sorte comme limitée à eux-mêmes et à leur entourage immédiat. La foi d'Abraham, bien au contraire, elle a eu des effets d'une portée beaucoup, beaucoup plus lointaine. Sa signification s'étend à toute l'histoire du salut et à l'avenir tout entier. Abraham a saisi la promesse non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses descendants corporels et spirituels. Ainsi est-il devenu l'ancêtre de beaucoup, selon Ézéchiel, chapitre 33, verset 24, et il est devenu ainsi le père de tous les croyants, Romains, chapitre 4, verset 11. Premièrement, nous avons la liberté de Dieu. Que Dieu ait choisi Abraham plutôt qu'un autre croyant de son temps, tel que Melchizedek, Genèse 14, verset 18 à 20, eh bien c'est là le fruit de sa libre souveraineté. Étant seigneur et gouverneur de l'univers, il distribue comme il veut les figures de l'échiquier de l'histoire humaine. Romains 9, verset 20. Il est vrai qu'il n'impose pas la foi aux croyants, non. Dieu n'impose pas du tout la foi dans le sens d'être obligatoire, obligé de croire en Dieu. Mais d'un autre côté, il n'impose pas ni l'incrédulité à l'incroyant. C'est le libre choix. Il laisse donc à chacun la liberté totale et l'autodétermination. Notez Saint Matthieu, chapitre 23, verset 37. Et Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Mais du milieu des méchants, il choisit par exemple tel méchant, et on pourrait là prendre l'exemple du pharaon d'Égypte, Romains 9, verset 17, afin de montrer en lui son pouvoir de jugement. Tandis que du milieu des croyants, il choisit tel croyant afin d'en faire l'agent de quelque tâche spéciale dans l'accomplissement du salut. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11 et les versets 29 et 30. C'est dans ce sens seulement que Abraham a été appelé et est devenu, pour ainsi dire, une figure officielle, absolument responsable de préparer la méditation du salut. Deuxièmement, nous avons la grâce de Dieu. Le choix d'Israël ne fut pas basé sur une quelconque supériorité de ce peuple. La méthode de Dieu, elle est absolument tout autre. Dieu se plaît à choisir les humbles et les insignifiants de ce monde. Notez Saint-Luc chapitre 1, verset 52, et la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. On ne saurait donc être surpris de voir Israël comparé à une épine. Exode 3, verset 2 et 3, et Michée, chapitre 7, verset 4. Aucune importance numérique n'aurait pu influencer non plus le choix de Dieu, car sur ce plan-là, Israël était le moindre de tous les peuples. Deutéronome, chapitre 7, verset 7. Alors, pourquoi donc le choix de ce peuple si ce n'était à cause de l'humble apparence que l'Éternel veut donner à la révélation divine? Il n'y a dans l'Ancien Testament aucune exaltation raciale du juif irrégénéré. Je répète, aucune exaltation raciale du juif qui est irrégénéré. On y trouve bien au contraire bien des paroles de jugement prononcées contre l'apostasie d'Israël. Dans le sens vétérotestamentaire, peuple choisi, on peut bien le dire. Notez 1 Chronique, chapitre 16, verset 13, et encore notez Exode 19, verset 5, Amos, chapitre 3, verset 2, et le psaume 147, verset 19 et 20. Tout cela ne signifie absolument pas peuple sélectionné. Un peuple sélectionné est tellement bon. Notez Ésaïe 1, verset 4 et Romains, chapitre 2, verset 24. Ni un peuple prédestiné à être politiquement dominant jusqu'à soumettre le monde tout entier, mais simplement un peuple séparé en vue du service de Dieu dans le cours du salut. Et c'est ici que le juif a failli de la plus terrible manière. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 et 16. Le but du plan de Dieu n'était pas la glorification du juif, pas du tout. Ézéchiel, chapitre 36, versets 22 et 23, ainsi que encore le verset 32 de Ézéchiel 36. Mais le but du plan de Dieu était la mise en lumière de la gloire, oui, la gloire de la grâce et de la sainteté de celui qui est à la fois Dieu des Juifs et, ajoutons, et des non-Juifs. Psaume 115, verset 1, Ésaïe, chapitre 44, verset 23, et ajoutez Romains, chapitre 3, verset 29. Troisièmement, nous avons la gloire de Dieu. En fait, l'ensemble de l'Écriture sainte montre le Juif plus d'une fois dépassé, oui, carrément dépassé par le non-Juif pour ce qui est de la réceptivité spirituelle pour ce qui concerne la foi. Et là, vous pouvez voir, il y avait là un centurion romain à Capernaum. Matthieu chapitre 8, verset 10. Et on peut dire aussi, en amour, par le Samaritain compatissant, notez Saint-Luc chapitre 10, verset 25, jusqu'au verset 37. Et je crois qu'on peut encore noter, toujours Saint-Luc chapitre 17, verset 16. Et aussi, la réceptivité spirituelle, elle était également en sacrifices qui ont été consentis à la recherche de la véritable sagesse, et cela par la reine d'Éthiopie, Saint Matthieu chapitre 12, verset 42. Ensuite, en repentance, par le peuple de Ninive, des Assyriens, Saint Matthieu 12, verset 41. En effet, rappelez-vous, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps du grand prophète Élie. C'est ce qu'a dit Jésus-Christ. Et cependant, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi un certain nombre de lépreux en Israël, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est le fameux Naaman, le Syrien. Saint Luc chapitre 4, versets 25 à 27. De l'étable, en effet de l'étable, Jésus-Christ alla jusqu'à la croix. Dieu choisit toujours l'insignifiant pour être le principal témoin de la vie du Christ auprès d'Israël. Saint Matthieu 1. En effet, l'évangéliste Matthieu n'était pas quelqu'un de très adulé, car il était le collecteur d'impôts, donc plutôt détesté. Chapitre 9 de Saint Matthieu, chapitre 9, verset 9. Tout cela pour annoncer la première que le Christ était ressuscité. Oui. Et là, qui c'était qui ont été les premiers à annoncer le Christ ressuscité? C'était Marie de Magdala. Cette Marie de Magdala, précédemment possédée du démon, donc ce n'était pas une sainte d'un monastère, et vous pouvez noter Saint Marc 16, verset 9, et Saint Jean, chapitre 20, verset 11, jusqu'au verset 18, Marie de Magdala, précédemment possédée du démon, elle était devenue le plus éminent, on peut dire la personne importante. Et puis, je voulais dire, en citant quelqu'un de très important, le plus important de tous les apôtres, je pense, et personne ne me contrariera, contredira, c'était saint Paul. Oui. Or, saint Paul ne se gonflait pas la poitrine et ne roulait pas les mécaniques. Il disait carrément qu'il était le plus grand de tous les pécheurs. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Le résultat de tout cela, c'est la manifestation de la grandeur divine. C'est donc, si vous voulez, la folle mesure de sa sainte jalousie. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, verset 25 et verset 27. Le choix de l'insignifiant, comme on a vu, telle était donc la véritable méthode de l'amour divin. Quatrièmement, nous avons la sagesse de Dieu. Et oui, un autre motif divin caractérise la sagesse de Dieu quant à l'instruction de la race humaine. L'histoire d'Israël en tant que race réfractaire, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51, devait enseigner à tous les peuples du monde, avec la crainte du péché, la gloire, oui, la gloire de la rédemption, avec le sérieux des jugements dépressifs, la profondeur de la grâce, de cette grâce qui pardonne. Psaume 102, versets 14 à 16. L'histoire d'Israël devient ainsi une leçon de choses sur la scène des affaires du monde, leçon donnée afin que les nations de la terre puissent percevoir ce que sont le jugement et la grâce. Ésaïe 52, verset 10, et Ézéchiel, chapitre 39, versets 23 à 27. L'homme étant rendu stupide par son opposition à Dieu, eh bien, il fallait un exemple clair et impressionnant. Et cet exemple précis, la sagesse de Dieu, le requérait. Et c'était donc là une des raisons du choix de ce petit peuple insignifiant Israël. Et cinquièmement, nous avons la justice de Dieu. En tout cela, les voies de Dieu sont demeurées justes. Israël n'a aucunement reçu de préférence, pas du tout, à ses plus hauts privilèges, Romains 9, versets 4 et 5, et le chapitre 3, versets 1 et 2, correspondent des responsabilités plus grandes encore. Les devoirs compensent les droits. La position comporte une obligation. Saint Luc, chapitre 12, verset 48, et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 17. Et le péché n'a reçu chez aucun peuple un jugement aussi sévère, il faut bien le dire, que chez les Juifs. Notez un peu Deutéronome, chapitre 28, versets 64 à 67. Chez eux, tout est porté au plus haut degré, tels que les privilèges, mais aussi les jugements, tels que les bénédictions, mais aussi les malédictions. Son choix est en lui-même la raison de cette sévérité tout à fait spéciale. Il est dit, « Je vous ai choisi, vous, seul parmi toutes les familles de la terre, et c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Amos, chapitre 3, verset 2. Et lorsque, au temps des grands jugements, Israël en appelle à sa position dans la grâce, voulant pour ainsi dire arracher des mains de Dieu le bâton qui le châtie et s'écrie « Mon Dieu, nous te connaissions et nous te connaissons, nous Israël ». Et la réponse divine intervient lapidaire, que Israël a rejeté le bien. Ainsi, l'ennemi le poursuivra. Osée, chapitre 8, versets 2 et 3. Chers amis, du fait que Dieu est maintenant limité sa révélation à un peuple ne signifie absolument pas que Dieu ait coupé carrément toute relation avec les nations mises de côté. Il leur reste un quintuple témoignage divin significatif, quoique moins direct. Examinons un peu donc ces cinq points minutieusement. Premier point, nous avons le langage symbolique de la nature. Depuis le commencement, les œuvres de la création ont manifesté la puissance et la divinité éternelle de Dieu. Romains chapitre 1, versets 19 à 21. Deuxièmement, nous avons le langage de la conscience. Oui, même les païens qui n'ont point la loi, mais ils ont une loi pour eux-mêmes, l'œuvre de la loi étant écrite dans leur cœur, dans leur conscience, en rendant témoignage. Donc leur conscience en rend témoignage. Romains chapitre 2, verset 14, verset 15. Troisièmement, nous avons le langage de la sagesse. Même dans le monde païen, eh oui, il y a tant de pensées élevées et profondes que l'on ne peut l'expliquer sans recourir à l'activité de la sagesse divine produisant un certain degré de connaissance dans l'esprit de l'homme en général. On peut citer ici des hommes comme Socrate, Platon, Lao Tse, Zarathoustra et beaucoup de poètes ou des penseurs des nations. Les pères primitifs de l'Église, tels que Justin de Sichem, au IIe siècle, en étaient venus à parler du grain de blé de la parole semé dans le monde des non-juifs. Il faut ajouter que certains souvenirs moraux et d'ordre général ont dû survivre parmi les peuples depuis la révélation originelle et ainsi s'ajouter aux qualités morales qui sont le partage même de l'homme naturel. Quatrièmement, nous avons le langage des autorités établies. Les magistrats sont au service de Dieu. Romains 13, verset 4. L'ordre institué par Dieu lui-même existe dans l'histoire, depuis l'alliance faite avec Noé, selon la Genèse chapitre 9, verset 6. sans l'autorité des gouvernements, la société serait rapidement submergée par le mal et cette société tomberait dans un barbarisme moral et spirituel, et cela dans la plus effrénée des perversités. Par le droit, Dieu étant une main protectrice, il est derrière l'autorité, il est, on peut dire, l'œuvre de tout cela, et les gouvernements de la terre, ces gouvernements sont ses instruments. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, la sagesse éternelle parle d'elle-même en ces termes, écoutez bien, par moi, Yahvé l'Éternel, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste, par moi, gouvernent les chefs, les grands, et tous les juges de la terre. Proverbe, chapitre 8, versets 15 et 16. Et cinquièmement, nous avons le langage de l'histoire. Même après le choix d'Abraham et d'Israël, Dieu continue à diriger l'histoire des peuples. Il tourne les cœurs des rois comme des courants d'eau et il les dirige où il veut. Proverbe 21, verset 1. La mise de côté du monde non-juif, c'est-à-dire les nations, ne fut donc pas du tout l'abandon de son histoire. Même en sa qualité de Dieu d'Abraham et d'Israël, l'Éternel reste tout autant le Dieu des nations. Romains 3, verset 29. Ça, c'est l'histoire de la race humaine tout entière qui a été et qui demeure l'œuvre de Dieu. Tout cela arrive afin que les hommes cherchent le Seigneur et s'efforce de le trouver, même si c'est en tâtonnant. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 27. Du point de vue du récit du salut, les nations sont individuellement des troupeaux, selon Saint Jean, chapitre 10, verset 16. Ce sont donc des communautés voulues de Dieu, en préparation pour l'Évangile. Donc, ce sont des communautés qui doivent garantir la proclamation paisible du message du salut et le maintien de l'individu dans la décence, dans la moralité et dans la justice civile. Si vous voulez, en un mot, l'histoire du monde est le support de l'histoire du salut. Non seulement la révélation a une histoire, mais l'histoire, elle, est une révélation. Ce n'est pas seulement une œuvre, mais c'est une parole stimulante de Dieu, car par l'histoire, Dieu se révélait tout en demeurant le Dieu caché. En ce qui concerne la révélation du salut, les non-juifs, donc les nations, ont été mis de côté, et c'est là la question principale, mais leur exclusion temporaire et limitée, il faut le dire. Ça, c'était le chemin de leur réacceptation et de leur réintroduction. En effet, chers amis, quel était le but de tout cela? Eh bien, la Sainte Bible dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse, chapitre 12, verset 13. Dès le début, la fin est mentionnée. La mise à part d'Abraham devait forcément ralentir le développement universel de l'histoire du salut, mais allait d'autre part la faciliter et l'amener d'autant plus sûrement à son but. Ça, c'est l'aspect universel qui était envisagé à travers le particulier, le tout à travers le détail et l'ensemble à travers l'unité. Donc, limiter la révélation au début à Abraham seul était la manière divine de servir l'ultime universalité du salut. La restriction était là, mais avec pour objet sa propre suppression. Dieu, détournant son salut des nations, afin d'être d'autant plus sûr de leur proclamer, oui, de le leur proclamer à nouveau, ce merveilleux salut. L'histoire du salut dans la pleine acception des termes, cette histoire n'indique pas un cercle limité à l'intérieur de l'histoire universelle, non, mais elle englobe et elle interprète toute l'histoire de l'humanité dans ses relations avec Yahvé l'Éternel. La marche de l'Évangile à travers le monde, c'est le thème propre de l'histoire du monde. C'est également la signification de toute l'histoire. Donc, l'histoire du salut, au sens large, est une théologie de l'histoire du monde. Dieu lui-même en est le centre en sa qualité de Seigneur de toute histoire. Au milieu de l'histoire du monde commence une histoire particulière, c'est celle de la révélation en laquelle il se rend présent à l'homme. Dans la première, il travaille spécialement comme le Dieu caché. Dans la seconde, il travaille spécialement comme le Dieu qui se révèle. Mais les deux, l'histoire du monde et l'histoire de la révélation, ont Dieu lui-même pour centre commun. Donc, vu sous cet angle-là, les deux appartiennent à l'histoire du salut. Et c'est ici le sens et l'âme de l'Ancien Testament. Et c'est précisément pour cela qu'il est rempli de promesses de salut, et cela pour l'ensemble de la race humaine, et spécialement en Ésaïe. Nous terminerons tout à l'heure par la prière. Sachez que de tous les livres des temps pré-chrétiens, l'Ancien Testament est le plus universel. Il inclut tous les peuples plus que toute autre littérature du monde antique. C'est le seul écrit de l'Ancien Orient qui contienne l'idée de l'unité de la race humaine et l'espérance d'un mouvement commun de l'humanité vers un but commun. Ceci est rendu absolument évident dans les chapitres d'introduction de l'Ancien Testament. Le chapitre 10, par exemple, n'est pas seulement la lettre de démission de la révélation à l'égard des nations, maintenant répudiées, mais c'est aussi une garantie écrite de leur ultérieure réacceptation à l'endroit précis où l'histoire sacrée commence à se limiter à Israël. Les peuples du monde sont à nouveau énumérés. Une garantie leur est ainsi accordée d'une place persistante dans la révélation divine au futur. Ils sont donc assurés de ne pas être oubliés, pas du tout, dans le conseil d'amour de Dieu, et de ne jamais quitter l'horizon de la rédemption. Le verre invisible de l'espérance s'enroule et court à travers les branches sauvages de ce catalogue des peuples, attestant à l'avance cette grande vérité que Dieu a tellement aimer le monde. Et vous connaissez la suite. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Demain matin, Dieu voulant, nous aurons l'étude numéro 6, la gloire de l'alliance avec Abraham. Mais pour l'instant, prions ensemble. J'aimerais vous dire les paroles d'un ancien cantique avant la prière. Heureux celui qui t'est toujours fidèle, Seigneur Jésus, et qui brûlant de zèle te suit partout. Ah, qui peut-on, Seigneur, aller que à toi? Tu nous promets une vie éternelle, tu nous promets une gloire immortelle. Toi seul, oui, toi seul, nous donne tout cela et tu peux faire entrer dans les cieux, oui, tous ceux qui acceptent ta main tendue. Oui, c'est vers toi seul que nous tournons nos yeux. Prions. Fais-nous la grâce, ô notre Dieu, de pouvoir te dire à notre tour, « Me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté et de t'offrir nos corps et nos esprits en sacrifice vivant et saint, ce qui est notre service raisonnable. » Nous avons été rachetés à grand prix, Seigneur. Donne-nous de te glorifier dans nos corps et dans nos esprits qui t'appartiennent. Mets en nous, Seigneur, par l'efficace de ton Saint-Esprit, les dispositions que tu veux y trouver. Rends-nous vraiment joyeux, joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérant dans la prière et ardent à fuir le mal, même tout ce qui a quelques apparences du mal, et à nous attacher uniquement au bien. Apprends-nous à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Rends-nous ainsi de plus en plus conformes à toi, ô notre Sauveur, et que notre nourriture soit de faire ta volonté et d'accomplir ton œuvre. Alors le renoncement nous deviendra doux et la vie chrétienne facile, et nos cœurs seront paisibles parce que, au lieu de nous mettre en peine et de nous embarrasser de plusieurs choses, nous nous serons attachés à la seule chose nécessaire, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Entends, Seigneur, nos prières pour nous-mêmes et pour tous ceux que tu nous as donnés à aimer, au nom de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et rappelez-vous que le Seigneur vous aime. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir.